proche de même.
Salut François, comment vas-tu?
Ça va très bien, ça va très bien, toi, Dan?
Oui, c'est une belle journée pour aller jouer ses patinoires extérieures. Hein? Tu passais la journée à pelleter, toi, ou bien?
Pas tant que ça, un petit coup, mais okay. assez tranquille. On va laisser la nature faire son œuf. On verra dans les prochains jours si j'ai vraiment besoin de pelleter, mais c'est là que ça a été une première journée assez ardue pour bien des gens. On peut le comprendre.
Ouais, tempête sur la ville de Québec aujourd'hui. Tempête médiatique hier avec l'annonce du congédiement de Don Cherry. François, on s'embarquera pas. Je pense que tout a été dit. Fait que même si on en rajoutait, je pense pas qu'on va tant que ça intéresser les gens à l'écoute de mon émission ce soir. Par contre, j'aurais un angle qui a pas été tant que ça abordé pour toi. Puis j'aimerais ça d'abord que tu répondes à la question. Tu sais, on dit souvent dans la vie, tu as déjà entendu ça, hein? Ouais, crime, ceux qui sont sur Terre, ben ils ont eu la naissance, puis on va avoir la mort. Je veux pas embarquer dans un gros débat philosophique, mais c'est vrai, tout le monde va mourir. Un jour, il y a personne qui a réussi à faire 2-3 000 ans. Puis il y a une histoire aussi qu'on se fait dire, c'est tout le monde est remplaçable. Hein? Peu importe l'emploi qu'on fait dans la vie, tout le monde est remplaçable. Dans ce cas-ci, et je ne veux pas mettre Don Cherry sur un piédestal, mais quand même, il faut reconnaître qu'il s'était créé tout un personnage, pas simplement par ses vestons. Pas certain qu'il est remplaçable dans ce cas-ci, François.
Ben, en fait, hier, je me suis amusé à regarder un peu, tu sais, puis à essayer de dresser une liste même de dire qui pourraient être les candidats pour remplacer Don Cherry.
Ouais.
Le seul nom qui m'est venu en tête, puis c'est le seul nom que j'ai vu passer, je pense que c'est Brian Burke.
Ouais.
Brian Burke a gagné une Coupe Stanley. C'est un gars qui a des opinions assez tranchantes. C'est un gars qui peut être très, très dur par moment, qui peut être dur à suivre par d'autres moments aussi. Mais moi, je voyais dans cette position-là peut-être le seul qui pourrait prendre la place de Don Cherry. Mais en même temps, je me suis dit, puis je ne veux pas parler juste pour moi, mais personnellement, Dan, depuis, écoute, ça devait faire 10, 15, 20 ans que je regarde plus Don Cherry. Je
okay. dirais,
et pour moi, il était dépassé depuis très longtemps. Ses commentaires ne m'intéressaient pas.
Tu n'étais pas un
moi,
fan,
quand,
toi, okay.
Non, puis si je regarde le hockey le samedi soir, je suis beaucoup plus intéressé par Elliot Friedman et par Chris Johnston qui font du très bon travail
ouais.
Au deuxième entraque
ouais.
que par Don Cherry.
Okay.
Donc, moi, si tu me dis demain matin, on le remplace pas, pour moi, ça change absolument rien. Et je peux te dire une chose, c'est qu'au Canada anglais, il y a quand même une certaine pression pour Sportsnet de trouver un remplaçant ou de
oui.
trouver une nouvelle formule. Parce que, en toute honnêteté, Dan, ça, c'est une opinion très personnelle, mais je pense que si Don Cherry avait accepté de présenter ses excuses, on n'aurait peut-être pas eu le même dénouement.
Ça,
on aurait
peut-être
dit, hey, fini
ouais.
l'année,
ouais.
puis on verra l'année prochaine.
Ouais.
Et là, tu sais, de se faire congédier le jour du souvenir puis tout ce qui vient avec, je pense
ouais.
que ça l'a piqué au vif. Mais pour moi, je pense que si c'est pas Brian Burke, je pense qu'on va peut-être changer complètement la formule du premier entraque pour le samedi soir.
De toute façon, que ce soit Burke ou pas, ça ne peut plus s'appeler qu'autre chose qu'on a, selon moi. Brian Burke, je pense, et ça c'est vraiment personnel, François, je pense qu'il n'est pas assez à l'aise dans les médias. On l'entend de plus en plus, on le voit de plus en plus. Il y a une bonne feuille de route comme homme de hockey, mais il faut vraiment que tu sois à l'aise. Tu sais, je te ferai un parallèle. À TVA Sports, on a voulu faire de Michel Bergeron le Don Cherry québécois. Puis des fois, Michel, c'est un gentil monsieur, je l'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, mais pour dire ce qu'il pense, des fois, ça sort pas assez vite. Don Cherry, il faut y reconnaître ça, ça sortait pas à peu près. Moi, je vais-tu mettre un autre nom pour remplacer Don Cherry? Et je trouve qu'au fil des ans, la CBC l'a un peu échappé. Et c'est un gars qui est beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français. C'est PJ Stock.
Oui, c'est vrai.
Moi,
c'est
ce
vrai.
Serait.
J'avais pas pensé.
Moi, PJ Stock, si j'étais le boss à Sportsnet, c'est lui que j'appellerais. C'est lui que j'aurais appelé hier soir ou ce matin.
Non, puis l'idée n'est pas mauvaise parce que j'aime ton point en disant que ça prend quelqu'un. Tu sais, écoute, le Coach's Corner, c'était pas long, c'était punché. Le gars savait où s'en allait, il s'exprime bien, tu sais, même dans les 85 ans pour Don Cherry, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je trouvais qu'il y a quand même une certaine prestance à la télévision. Ton point est bon avec PJ Stock parce que dans le cas de PJ Stock, c'est sûr qu'il, comme tu l'as mentionné, il est meilleur en anglais qu'en français, comme Pierre Lebrun et quelques autres qui travaillent dans les deux langues. La plupart sont plus à l'aise en anglais. C'est un gars qui peut être assez qui peut piquer au vif. PJ Stock, c'est un gars qui est capable. Quand ça tente de sur un sujet d'être assez dur, c'est un gars qui pourrait faire le travail. Mais je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Dan, mais peut-être que dans le meilleur des scénarios, t'es peut-être mieux de terminer l'année sans avoir quelqu'un puis avoir une grande réflexion durant l'été.
Ouais.
Parce que le gars qui arrive là, peu importe c'est qui.
Il va être comparé.
Il va être comparé. Puis la comparaison, peu importe le domaine où tu travailles, quand tu remplaces quelqu'un qui était là pendant 30, 40 ans, que bien des gens ont aimé, ça va être terriblement difficile.
Ouais.
Mais je pense que ton nom est intéressant parce que c'est vrai que Brian Burke, parfois, c'est un petit peu plus lent comme débit, c'est un petit peu plus long, puis des fois, il y a de la difficulté peut-être à arriver au point. Puis c'est pas un gars qui trippe tant que ça sur les médias, comme tu l'as mentionné. Mais je trouve que ton idée de PJ Stock est pas mauvaise du tout.
OK. Ligue nationale de hockey. Ce soir, le Canadien reçoit Columbus. Columbus, François, il faut que je te fasse un aveu. Pendant bien des années, j'ai pensé que c'est l'équipe qui allait tout rafler en série. Là, je me disais, hey, check le banc, les autres. D'abord, tu vas me dire, voyons, c'est un drôle de commentaire que tu lances en premier pour lancer ton analyse, Dan. J'ai toujours trouvé que leur chandail était très beau. Ça assure pas que tu vas gagner un match, là. Mais j'ai toujours aimé le chandail des Blue Jackets. Et je trouvais que c'est un groupe de jeunes joueurs. Je trouvais que c'est une équipe qui avait très bien repêché pendant plusieurs années. C'est amené dans ce groupe-là, Seth Jones. On a donné Ryan Johansson. Moi, je suis vraiment pas un fan de Ryan Johansson. J'irais pas à guerre avec lui. Non seulement, je serais pas en avant de lui, puis je serais pas en arrière de lui. Donc, j'irais pas à guerre pantoute avec. Puis les Blue Jackets, avec Bobrovsky, évidemment, là, c'est un peu plus incertain devant le filet, mais avec Bobrovsky, je me disais, voici l'équipe qui peut non seulement tenir tête aux Pingouins comme ils l'ont fait dans quelques séries, mais gagner puis faire un long bout de chemin en série. Finalement, c'est pas arrivé.
Non, puis on n'est pas sûr que ça va arriver avant un bon bout de temps, parce que tu sais l'année passée, je pense qu'on a tous été un peu surpris parce qu'ils ont tenté de faire, ça a donné quoi, une ronde de série de plus, puis on a compris ce qu'on voulait faire, mais le problème, Dan, présentement, c'est que je pense qu'il y a quand même un manque de talent brut, surtout offensivement. Tu sais, parce que après Pierre-Luc Dubois, là, c'est assez sec. Là. Cam Atkinson a une saison assez ordinaire. Tu as parlé des défenseurs, il y en a plusieurs qui font partie des meilleurs marqueurs de l'équipe avec Jones, avec Werenski et compagnie. On a signé Gustav Nyquist. Écoute, c'est tel que tel, un gars de 30 ans qui signe. Puis, tu sais, c'est un club qui, je suis d'accord avec toi quand tu as mentionné que c'est un club qui a bien repêché. Je pense que dans l'ensemble, on a fait du bon boulot dans les dernières années. Mais quand tu regardes cette équipe-là, il y a quand même quelques jeunes qui ont eu de la difficulté à se développer. Devant le filet, on pensait que Korpisalo pourrait faire le travail. Pour le moment, son pourcentage d'efficacité est sous la barre des 900. Sa moyenne est au-dessus de 3. On commence à avoir des gros points d'interrogation, à savoir, est-ce qu'on a les bons jeunes pour s'en aller dans la bonne direction ou est-ce qu'il faudrait compléter peut-être le ménage avec une couple de gars de 28-29 ans qui pourraient partir puis complètement reconstruire cette équipe-là. Mais moi, je pense, écoutez, puis cette année, puis peut-être encore pour 2 ou 3 ans, je vois pas les Blue Jackets en série. Puis comme je te dis, je comprends très bien ce qu'on voulait faire l'année passée. T'sais, tu y vas all-in une saison, ça a quand même donné certains résultats, mais il fallait que tu t'attendes à payer cette année. Puis c'est ce qui arrive. Puis si tu n'as pas 2 ou 3 jeunes qui prennent la pole des gars qui sont partis, cette équipe-là pourrait être dans le trouble pas mal plus longtemps qu'on puisse le penser.
Ils s'amènent à Montréal ce soir sur une séquence de 6 défaites à leurs 7 derniers matchs. C'est une équipe, comme tu viens de le préciser, qui va avoir de la misère à se remettre des départs de Bobrovsky et de Panarin. Mais je les trouvais bons. Je les trouvais vraiment bons dans les 6-7 dernières années. Et quand tu parles de jeunes qui n'ont pas réussi à s'établir, l'énigme, pour moi, dans les poules de hockey et sur la patinoire, au Centre Bell, ce soir, les gens vont pouvoir regarder ça à la télé, c'est Alexander Wenberg. J'ai l'impression, il a fait, je pense, 53 ou 54 points sa première saison dans la LNH. Puis depuis ce temps-là, je pense qu'il n'a pas fait 54 points au total des 3-4 dernières tellement ça va mal.
Oui, puis là, c'est le genre de gars qui, à chaque année, dans un pot, tu te dis, ça y est, là, il va retrouver sa confiance.
Ouais.
Mais là, tu parles d'un gars qui est quand même rendu à 25 ans, puis tu l'as mentionné, il avait eu une très, très grosse saison. Écoute, c'est une énorme déception, Alexander Wenberg. Puis c'est le genre de gars, puis je vais le mentionner, Dan, moi, John Tortorella, je l'aime comme entraîneur. Je trouve que c'est un gars, je sais que les gens, tu sais, voient surtout ce qui se passe dans les médias, puis oui, c'est un gars qui est parfois excessif, qui est colérique. Ça reste un très bon coach de hockey. Peut-être que ça fait partie de l'ancienne génération. Et je me demande parfois si certains joueurs, puis je pense que Wenberg est un bel exemple, de gars qui pourrait peut-être sortir de sa coquille si on le mettait dans peut-être une autre équipe, peut-être
bon point.
Dans une autre formule, dans un autre style. Tu sais, il y a bien des Européens qui arrivent ici, qui, tu sais, ton premier coach ou ton seul coach, c'est John Tortorella. Par moment, tu dois trouver ça dur. C'est très difficile de ce que tu as connu par chez vous. Puis dans le cas de Wenberg, quand il avait eu sa grosse saison, C'était pas loin d'une soixantaine de points. Puis là, on se disait, ça y est, il est parti. Puis depuis ce temps-là, c'est la débandade. Puis on se demande même si ça va pas être encore pire cette année. Je pense, je regardais hier, je pense que c'était 6 points.
Oui, il y a 6 points, exact.
Et 2 buts. Donc, je pense que c'est le genre de gars que tu dis, écoute, je veux qu'il se développe parce que si je l'échange, j'aurai pas assez en retour. Puis il y a de fortes chances qu'il explose ailleurs. Donc, on essaie de retrouver la touche magique. Mais c'est, écoute, dans la catégorie point d'interrogation, là, que tu n'as aucune idée de ce qu'il va te donner à chaque année, je pense que Wennberg est vraiment, vraiment dans le haut de la liste.
OK. Parlant de jeunes qui ne se développent pas comme c'était prévu, je veux aborder le sujet de Jesse Puljujärvi. C'est un grand Finlandais de 6 pieds 4 pouces, 210 livres, qui a 21 ans, qui joue en Finlande actuellement. Dans la Ligue d'élite là-bas cette année, il a 20 points en 18 matchs. Ça avait été le choix de 4e ronde des Oilers l'année où Pierre-Luc Dubois, justement, est sorti au rang 3 par les Blue Jackets. C'est la fameuse année de Patrick Laine et de Austin Matthews. 139 matchs sur 3 ans avec les Oilers. Il n'a pas l'air d'être le préféré là-bas. Il y a eu changement de garde. Dave Tippett et Ken Nolan se sont amenés. Lui est parti en Finlande, puis là, dans les derniers jours, on apprenait qu'il a dit, je sais pas si c'est du bluff de son agent, mais il a dit qu'il veut passer la saison au complet en Finlande. C'est exactement le genre de joueur que je travaille, sur lequel je travaillerais très fort pour aller chercher si mon nom, c'était Marc Bergevin.
Oui, puis je vais te dire que de ce que j'ai compris dans les dernières semaines, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de DG qui ont donné un coup de fil à Ken Holland, à Edmonton, savoir quel était le prix pour Puljujärvi, parce que tu parles d'un gars là, qui est en début de carrière, qui a énormément de potentiel, parce que c'est un gars qui n'a pas réussi à se développer, que de temps en temps, il y avait un petit flash, là, qui disait « Wow, ce gars-là a du talent », mais moi, de ce que j'avais entendu, Dan, c'est le prêt à payer, c'est un choix de première ronde et un prospect de premier plan. Okay. Là, évidemment, tout dépend où est-ce que tu es placé au classement, peut-être qu'une équipe qui va terminer 28-29e, ou tu vas avoir le 28-29e choix de première ronde, peut être un petit peu plus enclin, mais t'as pas de garantie que le jeune va se développer, que le jeune va, tu sais, qu'il va avoir l'impact souhaité sur ton équipe. Je pense que c'était là le gros du problème. C'était vraiment, vraiment le prix à payer dans le cas de Puljujärvi. Parce que, rappelle-toi même, à un certain moment donné, cette année-là, on disait, Matthews va sortir premier, tout le monde le savait. Ouais. Mais il y a des gens qui pensaient que Puljujärvi allait sortir peut-être même deuxième. Il y a des gens qui disaient, ce gars-là a plus de talent que Patrick Laine, tu sais, globalement. On pensait que Pierre-Luc Dubois sortirait après aussi.
Ouais.
Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'équipes, si le prix était un petit peu plus intéressant, qui voudraient faire cette transaction-là en disant, nous, on sait comment le prendre puis on sait comment le développer. Mais ça revient un peu à ce que je t'ai dit tantôt avec Wendberg, c'est-à-dire que les Oilers se disent, je peux pas échanger ce gars-là pour un choix de deuxième ronde. Là, ça me prend quelque chose de solide en retour. Sinon, on va être patient, on va le laisser en Europe puis on verra peut-être l'année prochaine si le jeune homme a pris de la maturité et est un meilleur joueur de hockey. Mais j'avoue que les commentaires de cette semaine m'ont fait grincer des dents un peu, à savoir peut-être que le gars s'est rendu compte qu'il est aussi sinon plus heureux en Europe qu'il l'était lorsqu'il jouait à Edmonton dans la Ligue américaine.
François, on approche la mi-novembre. Tu me corrigeras si je me trompe, mais tantôt j'ai fait référence à la transaction entre Seth Jones et Ryan Johansson. Je pense que c'était une transaction qui s'était faite en début de saison et je trouve le moment... Cette période-ci, là, sur une période peut-être encore de 2-3 semaines, je trouve que c'est le moment clé pour faire une transaction qui pourrait tourner à ton avantage, dans le sens où, quand t'appelles un autre DG puis il regarde le classement, il se dit pas « Ouais, toi, t'es vraiment dans le trouble, à moins que tu sois le DG des Sénateurs ou des Kings de Los Angeles ou des Red Wings de Détroit, là. » Mais tout le monde est à peu près dans le même paquet en termes de points. Donc, t'as pas l'air si en panique que ça quand t'appelles un autre DG pour faire un trade.
Non, c'est vrai que le timing est très différent de quand tu regardes ce qui se passe à la date limite des transactions, là, que les gens s'attendent souvent à ce qu'il se passe beaucoup de choses. Souvent, les meilleures transactions se font quelques semaines, voire quelques mois avant cette date-là. Et des fois, la valeur de certains joueurs qui n'ont pas la chance d'endosser l'uniforme souvent, la valeur d'un choix de première ronde, parce que certaines équipes, t'sais, puis le plus bel exemple qu'on peut se donner, Dan, on a parlé ensemble des Oilers puis des Sabres dans les dernières semaines. T'sais, moi, c'est deux clubs que je suis pas convaincu qu'ils vont faire les séries, même s'ils vont probablement avoir une meilleure saison que l'an passé. Si tu appelles au mois d'octobre, puis tu peux avoir un choix de première ronde contre un certain joueur, ton choix peut devenir pas mal plus intéressant que ce que tu peux penser, parce que ces équipes-là, pour moi, manquent de profondeur pour finir dans les premières, donc le choix est plus intéressant. Mais il y a certains joueurs aussi qui se retrouvent dans des situations difficiles. Des fois, c'est une question de position. Des fois, c'est une question d'entraîneur. Des fois, c'est une question de style de jeu. Mais je suis entièrement d'accord avec toi que c'est le moment, peut-être avant le mois de décembre ou avant la fin de l'année 2019, de dire on peut prendre une chance sur un certain joueur si le prix est intéressant. parce qu'on va avoir le temps de voir ce qu'il peut nous donner et non pas d'aller chercher un gars le 28 février pour un mois et demi puis l'amener dans une situation qui est trop difficile. Je pense que le timing pourrait être intéressant pour certaines équipes pour tenter de s'améliorer.
Absolument. Et on me dit que c'était au début novembre la transaction Seth Jones contre Ryan Johansson, donc à peu près à cette période-ci. Un gros merci, François. Bonne soirée à toi.
Salut, bonne soirée, Dan.
Bye. François Paquette, chroniqueur sportif à qui on parle chaque mardi dans l'avant-match.